Bonjour à tous et à toutes. Nous avons lu donc ce passage dans la lettre de Paul aux Hébreux, et c'est un passage très intéressant et très important. Il semble soulever un problème, c'est que les destinataires de cette lettre risquaient de perdre leur salut. En effet, le texte dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Ce qui sous-entend l'idée que si nous négligeons le salut, nous pouvons ne pas échapper au châtiment, c'est ce dont parle l'Épître aux Hébreux. Nous ne savons pas exactement qui sont ces Hébreux, en dehors du fait qu'ils étaient sans doute Hébreux, puisqu'ils sont appelés ainsi. Nous ne savons pas qui étaient vraiment ces Hébreux, de quelle église ils étaient, dans quelle ville ils habitaient, ni même dans quel pays. La plupart des gens, des spécialistes, disent qu'ils étaient à Rome, mais on n'en a pas des preuves absolues. Nous ne savons pas non plus, et ça c'est une exception dans le Nouveau Testament, nous ne savons pas qui a écrit la lettre aux Hébreux. Parce qu'au début de cette lettre, contrairement par exemple aux épîtres de Paul ou de Pierre ou de Jean, surtout de Pierre et de Paul, l'apôtre qui écrit la lettre se présente. Ici il n'y a aucune présentation au début de la lettre. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse beaucoup cet après-midi. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que les Hébreux en question, quand on lit toute la lettre, les Hébreux en question avaient d'abord fait une expérience, une rencontre avec Dieu. Ils avaient entendu l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, et par ce moyen-là, leur vie avait été transformée au point que quelque temps après leur conversion, ils avaient accepté la persécution, et cette persécution ne les avait pas poussés à s'éloigner de Dieu. Quelquefois, on le voit, des chrétiens s'éloignent de Dieu parce que la persécution est trop forte. Nous avons dans le monde entier des chrétiens qui sont persécutés uniquement parce qu'ils ont foi en Dieu, uniquement parce qu'ils sont chrétiens, et cela arrive dans un certain nombre de pays du monde, comme cela a eu lieu en Europe aussi, à une certaine époque de notre histoire, de l'histoire. Mais ces chrétiens donc avaient accepté d'être persécutés. Il est même dit dans le chapitre 10, entre les versets 32 et 34, qu'ils avaient accepté de se voir privés de leurs biens matériels. Nous ne savons pas si ça veut dire qu'ils avaient été chassés de chez eux et qu'on avait pris leur maison et leurs biens. Mais l'apôtre qui a écrit cette lettre dit, vous aviez accepté avec joie la prise de vos biens, l'enlèvement de vos biens. Mais voilà, le problème qui ressort aussi de la lettre aux Hébreux, c'est qu'à un certain moment, ces Hébreux, ces chrétiens, se sont découragés et ont eu envie de s'éloigner de la foi. Et il semble même, quand on lit l'Épître, que certains d'entre eux s'étaient vraiment éloignés de la foi. Nous avons lu ce texte qui dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un salut si grand ou un si grand salut ?» J'aimerais cet après-midi parler d'abord de ce si grand salut. Le salut que propose l'Évangile, le salut qu'offre Jésus-Christ, si nous voulons croire en lui et donc accepter cette vie nouvelle, c'est un grand salut. Ce n'est pas une petite expérience. Nous en avons parfois l'impression, et parfois il m'arrive d'entendre des chrétiens dire « Oh, vous savez, moi, vous me demandez de rendre mon témoignage, mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que je suis né dans une famille qui connaissait Dieu, une famille chrétienne, j'ai été élevé dans la foi en Dieu, dans la foi en Jésus, et donc je n'ai pas vécu d'expériences spectaculaires, disent certains. Cependant, la Bible montre que toutes les expériences avec Dieu ont un caractère spectaculaire. Le salut est un miracle. Aucun être humain ne peut changer sa vie par ses propres moyens. C'est une œuvre, une chose que l'homme ne peut pas réaliser tout seul. L'homme ne peut pas se changer. Il n'en est pas capable. Il y a très longtemps, Dieu a donné à son peuple, Israël, une loi pour lui montrer quel était le droit chemin. Et il suffisait, si je peux me permettre de dire « il suffisait », de mettre en pratique tout ce que disait la loi non pas pour être sauvés, mais pour plaire à Dieu. Ce n'est que plus tard que Dieu va apporter la notion de salut. Un jour, par le prophète Jérémie, Dieu a dit « Je mettrai ma loi, donc cette loi-là, dans leur cœur. Je mettrai ma loi dans leur cœur. » Et ce miracle, c'est Jésus qui l'a accompli. C'est un grand salut parce que toute personne qui veut venir à Jésus, qui veut croire en lui, croire en son sacrifice sur la croix pour sauver, pour nous sauver, pour pardonner nos péchés, nous donner une nouvelle vie, chaque expérience de conversion, qui est d'ailleurs nécessaire pour tous. Nous avons par exemple l'exemple dans la Bible de plusieurs personnages connus qui se sont dans l'Évangile, qui ont fait cette expérience. Et le premier, c'est Zachée. Zachée, c'est un nom que nous n'entendons plus beaucoup aujourd'hui. C'est rare que des gens, je n'ai jamais entendu des gens aujourd'hui donner ce prénom à leurs enfants, mais c'était un prénom de l'époque. Zachée avait une particularité, c'était un juif, mais qui travaillait pour l'occupant romain. Et à cause de cela, il était très mal considéré par ses concitoyens, par ses compatriotes, parce qu'il travaillait pour le compte de la force d'occupation. Vous savez que les forces d'occupation, quel que soit l'endroit au monde, n'ont jamais été très appréciées, parce qu'on a toujours l'impression, et c'est la vérité, que ce sont des intrus, que ce sont des ennemis. Et Zachée était considéré par ses compatriotes comme un intrus, quelque part, parce qu'il collaborait avec l'occupant. Et la Bible nous dit que Zachée travaillait au bureau des péages, c'est-à-dire, on pourrait dire aujourd'hui, il travaillait dans un bureau de la douane. La douane où tous les commerçants qui voulaient entrer en Israël avec des biens pour les vendre devaient payer des taxes, des droits, pour avoir le droit de venir en Israël vendre leurs marchandises. Et Zachée, d'après le texte de Luc chapitre 19, son histoire est bien connue, Zachée non seulement prenait les taxes pour l'Empire romain, mais en plus il prenait des taxes pour lui-même. Le texte sous-entendre que Zachée en prenait beaucoup plus que ce qu'on lui demandait, beaucoup plus que ce que l'État romain lui demandait de prendre. Et c'est pour cela que lorsque Jésus un jour est passé par là et lui a dit « Zachée, il faut que je vienne te voir ». Alors Zachée était tout content parce que Jésus était quelqu'un de très célèbre, de très populaire et quelqu'un qui parlait mieux que tout le monde, quelqu'un qui faisait des miracles. Donc Zachée était très heureux que Jésus prenne la peine, c'était un honneur pour lui, que Jésus prenne la peine de venir dans sa maison. Mais la Bible laisse entendre que quand il est entré dans sa maison, et pendant l'entretien qu'ils ont eu tous les deux, Jésus et Zachée, il s'est passé un miracle. Zachée a cru au message de Jésus. Et vous savez que quand on croit au message de Jésus, cela change tout dans notre vie. L'enseignement de Jésus est très profond. L'enseignement de Jésus est que nous devons changer radicalement de conduite pour plaire à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Zachée a dit qu'il allait maintenant restituer tout ce qu'il avait volé et qu'il donnerait même le quadruple pour se faire pardonner, sans doute. Mais cela montre une chose, c'est que le salut que Jésus dit à la fin de son entretien, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Pour bien dire que Zachée a découvert le grand salut de Dieu ce jour-là. C'était un salut radical, une expérience radicale, dans le sens où, eh bien, aucun homme n'aurait pu changer la vie de Zachée. Il aurait d'abord fallu que Zachée le veuille. Mais Zachée a été si impressionné par Jésus qu'il a décidé de changer de vie et d'accueillir Jésus dans sa vie et d'accueillir donc de recevoir ce si grand salut. Il y a des personnages autres dans la Bible, dans l'Évangile, qui ont rencontré Jésus et découvert ce grand salut. Je pense à cette femme qui s'appelait Marie de Magdala. La Bible dit, l'Évangile de Luc dit que Marie de Magdala, avant de connaître Jésus, était possédée de 7 démons. Sa vie était un enfer. Elle ne faisait plus ce qu'elle voulait. Les démons étaient devenus maîtres d'elle-même. Et la Bible dit simplement, Jésus a chassé les 7 démons de Marie de Magdala. C'était un changement total, radical. Et Jésus fait toujours de ce genre de miracle. La conversion de Saul de Tarse est une conversion spectaculaire. La conversion de bien d'autres gens dans la Bible sont des conversions spectaculaires. Mais même un chef religieux de l'époque, qui s'appelait Nicodème, qui lui ne vivait pas, on serait tenté de dire, dans le péché, dans le mal, dans la corruption, Nicodème a eu besoin, lui aussi, de faire cette expérience de salut et de passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie, puisque Jésus lui a dit, Nicodème, si un homme, sous-entendu, quel qu'il soit, même s'il s'appelle Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc il ne peut pas aller au ciel. C'est l'œuvre merveilleuse de Dieu. D'ailleurs, c'est à Nicodème qu'il est dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cela le message de l'Évangile. Ce salut est donc un grand salut. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le texte qui a été lu tout à l'heure. Mais le deuxième point, c'est un grand salut, mais le deuxième point, c'est que c'est un salut qui doit être cultivé. C'est une expérience qui doit être entretenue. On n'est pas sauvé, et toujours sauvé, éternellement sauvé, quoi qu'on fasse, et quelle que soit la manière dont on se comporte. La Bible laisse entendre ceci dans Romains chapitre 8, verset 24. Le salut, nous sommes, c'est en espérance, dit ce texte, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas été sauvés. Ça veut dire que le jour où nous croyons en Jésus-Christ comme en notre Sauveur, nous sommes sauvés à ce moment précis. Mais ça veut dire, quand il est dit « c'est en espérance que nous sommes sauvés », c'est parce que nous espérons qu'un jour Jésus reviendra. Nous espérons rester fidèles jusqu'à notre mort. Alors, ce n'est pas compliqué. Nous pouvons rester fidèles jusqu'à la mort. Mais cela veut dire que nous devons travailler pour rester fidèles. Nous devons nous efforcer de mettre en pratique la parole de Jésus chaque jour. Et nous serons sauvés définitivement, comme le dit la parole de Dieu, lorsque nous verrons Jésus, lorsque nous irons au ciel à la fin de notre vie terrestre. Un nombre assez intéressant de textes confirme cela et nous montre que nous devons persévérer une fois sauvés. C'est par exemple le texte de la parabole du semeur, que tout le monde connaît bien en général. Il est dit dans la parabole du semeur, lorsque vous savez, Jésus parle de 4 terrains qui reçoivent la parole de Dieu, la semence et la parole de Dieu. Il y a 4 terrains qui correspondent à 4 dispositions du cœur qui reçoivent la parole de Dieu. Et dans le dernier terrain, celui qui accueille la parole de Dieu et qui va porter du fruit parce qu'il la met en pratique, il est dit que après avoir entendu la parole, ces gens-là la retiennent, ils la retiennent dans un cœur honnête et bon, et ils portent du fruit avec persévérance. La persévérance est ce qui fait passer notre salut d'une espérance à une certitude. Tout enfant de Dieu, tout chrétien qui a fait l'expérience de la conversion, du salut, a l'espérance qu'un jour, il verra son salut concrétisé définitivement. Mais tout enfant de Dieu qui vit avec cette espérance peut, par la persévérance, rendre ce salut toujours plus certain. Il y a un autre texte qui est intéressant dans la Bible, c'est dans la lettre aux Éphésiens que l'apôtre Paul dit ceci, « Travaillez à votre salut. » Travaillez à votre salut. Ce qui montre bien qu'une fois que nous avons reçu le salut, nous ne devons pas en rester là. Nous avons reçu le salut, c'est comme si on nous remettait, pardonnez-moi d'être très concret, mais c'est comme si je disais à l'un d'entre vous, je te donne 1 million d'euros. D'abord, il y a un grand sourire qui apparaît en général, si on est constitué normalement, il y a un grand sourire qui apparaît sur le visage, mais ce n'est que le début. Il y a ceux qui vont le dépenser tout de suite, de manière plus ou moins futile, vaine, et il y a ceux qui vont se dire, bon, je vais réfléchir, que vais-je faire de ce million d'euros pour qu'il puisse rapporter le plus possible ? Il y a ceux qui vont l'investir dans des valeurs en bourse, il y a ceux qui vont l'investir dans l'immobilier, il y a ceux qui vont mettre de côté une partie de l'argent, il y a ceux qui vont donner de l'argent aux pauvres, etc., etc. Chacun va être libre d'utiliser ce chèque d'un million de manière plus ou moins raisonnable selon les personnes. Le salut, on le reçoit. Alors, je ne vais pas dire que le salut, ça vaut un million, ça vaut beaucoup plus que cela, puisque Jésus a payé de sa vie notre salut et le salut de tous ceux qui veulent croire en lui. Mais quand l'apôtre Paul dit « travaillez à votre salut », ça veut dire que le salut, c'est comme quelque chose que Dieu nous a donné pour que nous investissions avec cela. Dieu, en quelque sorte, a investi dans notre vie en nous offrant le salut. Et dès l'instant où nous le recevons, nous devenons responsables de cet investissement que Dieu nous confie. Vous savez qu'il y a une parabole que Jésus a racontée, c'est la parabole des talents. Un homme s'en va et avant de partir de chez lui, il donne des talents, il en donne 10 à l'un, 5 à l'autre et un seul au troisième. Et puis celui qui a les 10 talents les utilise, les investit et il rapporte beaucoup. Celui qui a reçu 5 talents, il les investit, bien sûr il a moins que le premier, il a deux fois moins, mais il utilise ses talents pour les faire fructifier. Et puis celui qui en a reçu qu'un se dit, moi je n'en ai qu'un, alors est-ce que c'est par jalousie vis-à-vis des deux autres, mais comme il en a reçu qu'un, il dit, moi j'ai peur de mon maître, je ne veux pas qu'il me dispute quand il va revenir, je ne veux pas qu'il me dise que j'ai rien fait, alors je vais enterrer ce talent dans la terre, puis je vais attendre. Et c'est justement ce qui se passe quand le maître revient, il avertit solennellement et il punit celui qui a un seul talent, non pas parce qu'il n'avait qu'un seul talent, puisqu'il savait bien qu'il avait reçu qu'un seul talent, puisque c'est lui qui le lui avait donné, mais parce qu'il n'a rien fait avec. Et le salut, c'est la même chose. Le salut n'est assuré qu'en Jésus. Et ce n'est que si notre vie porte du fruit que ce salut est bien utilisé. Tout le monde peut utiliser son salut pour le faire fructifier. Un salut qui fructifie, c'est un salut dans lequel nous voulons vivre tous les jours comme Jésus, dans lequel nous voulons mettre en pratique les enseignements de Jésus. Cela, c'est un salut qui est bien utilisé. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, il y a un texte qui dit ceci, Jean chapitre 15, Jésus dit ceci, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ça, c'est le salut qui est bien utilisé. Nous laissons Jésus. Vous savez, quand nous sommes sauvés, quand nous nous convertissons à Jésus-Christ, il est dit que Dieu fait de notre corps le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple de sa présence. Dieu vient habiter en nous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et il termine, enfin il dit encore ceci au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, « demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Cela montre, cette dernière parole, « demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé », cela nous montre un exemple de la manière dont notre salut peut être utilisé. Dieu a investi en nous et nous devons mettre sa parole en pratique, par exemple, et nous devons vivre en communion avec lui, nous devons être attachés à lui comme le sarment est attaché au cep, pour porter du fruit. Et l'un de ces fruits, dit Jésus, c'est que lorsque vous prierez, lorsque vous priez maintenant, votre prière sera exaucée. Cela veut dire que si je prie alors que je demeure en Jésus, que je demeure dans son enseignement, que je le pratique, si je prie, Jésus promet de répondre à mes prières. Il promet que ce que je demanderai, il l'exaucera, il le fera. Ce n'est pas que nous pouvons demander n'importe quoi, parce que Jésus a dit avant, « Si vous demeurez en moi, vous pourrez demander ce que vous voudrez, et je le ferai. » Ce qui veut dire tout simplement que si je demeure en Jésus, je ne peux pas demander quelque chose qui ne plaise pas à Jésus. Je vais forcément, puisque je demeure en lui, puisque je me nourris de sa parole, puisque je vis en communion avec lui, tout ce que je vais demander va être inspiré par cette communion et par cette parole de Dieu. Notre salut demeure entier tant que nous demeurons en Christ. Alors nous sommes certes sauvés en espérance, mais si nous demeurons en Jésus, ce salut demeure et il se concrétisera, définitivement et complètement lorsque nous verrons Jésus. Mais il y a un dernier point. Nous avons un si grand salut. Ce salut, nous devons l'entretenir, le cultiver. Et le troisième et dernier point, c'est que ce salut peut être négligé. Il peut être négligé. C'est-à-dire que nous pouvons ne pas faire ce que nous venons de voir. Nous pouvons ne pas entretenir notre foi en Dieu par la lecture de la parole de Dieu, de la parole de Jésus, pour qu'elle se développe en nous. Nous pouvons ne pas prier selon sa volonté. Nous pouvons marcher en croyant ou en ne croyant pas, où il y a des jours où nous croyons davantage, et puis au gré des événements de notre vie, nous nous laissons éloigner, nous nous éloignons un peu de Dieu. Les Hébreux avaient fait une grande expérience, ils avaient découvert un grand salut. Mais cela n'a pas empêché certains d'entre eux de se laisser décourager après avoir résisté aux épreuves. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, ils avaient été persécutés après avoir rencontré Jésus. Mais ils se sont battus, ils se sont serrés les coudes et ils ont persévéré pour rester fidèles. Et une fois que la persécution s'est terminée, ils se sont relâchés, ils ont négligé un salut pourtant si grand. Cela me rappelle une histoire, je ne sais pas si je l'ai déjà racontée ici, c'est l'histoire d'un chrétien qui habitait, je crois, en Roumanie, à l'est de l'Europe, avec sa femme et leur fille. Et il y avait à l'époque du communisme en Roumanie, de violentes persécutions contre les chrétiens. Il y avait même des chrétiens qui étaient mis en prison. Certains étaient torturés. Dans les années 70, un pasteur roumain qui s'appelait Richard von Brandt a fait parler de lui parce qu'il a publié des livres qui ont été comme une révélation pour les chrétiens en Europe, et peut-être ailleurs que en Europe, lorsqu'il a raconté comment le gouvernement de Roumanie à l'époque avait persécuté les chrétiens, comment lui-même en tant que pasteur avait été mis en prison et torturé de nombreuses fois pour le faire renoncer à sa foi. Et même un jour, les responsables de la prison sont venus le voir et lui ont dit « Tu sais quoi, Richard, ta femme est partie avec un autre homme. » Mais ce n'était pas vrai. C'était juste pour le faire craquer, pour lui faire comprendre qu'à force d'être fidèle à Jésus, il avait tout perdu. Et pour qu'il renonce à sa foi. Mais Richard von Brandt ne l'a pas cru. Il a dit non, je ne crois pas que ma femme puisse faire une chose pareille, parce qu'elle aussi est chrétienne. Et en fait, quelques années plus tard, il a été libéré de prison et il a retrouvé sa femme, qui lui avait toujours été fidèle pendant tout ce temps-là. Mais en Roumanie, il y avait donc un autre homme, il n'était pas pasteur celui-là, c'était un chrétien, membre de l'église locale. Avec sa femme et sa fille, ils avaient résisté eux aussi aux persécutions les plus dures. Et puis lorsque le régime est tombé, lorsque le mur de Berlin s'est écroulé, lorsque la liberté a soufflé sur l'Europe de l'Est, un jour le gouvernement de Roumanie a dit à ses concitoyens, si vous voulez émigrer à l'étranger, on vous donnera l'accord. Vous n'aurez qu'à aller voir les ambassades occidentales à Bucarest, et si vous le donnent un visa, vous pourrez partir. Alors ce brave homme a dit, bon d'accord, maintenant nous avons retrouvé la liberté, mais pourquoi ne pas tenter l'expérience de l'étranger ? Alors ils sont partis et ils ont obtenu un visa pour les États-Unis. Ils se sont installés aux États-Unis. Un jour, quelques années plus tard, la fille de cet homme et de cette femme est allée dans une église évangélique et à la fin du culte, elle a dit au pasteur, « Pasteur, j'aimerais que vous priez pour mon père. » Alors le pasteur l'a regardé, mais il lui dit, « Pourquoi est-ce que tu veux qu'on prie pour ton père ? Il est malade ? Ça ne va pas bien ?» Il dit, « Non, il est en pleine santé. » Mais et elle lui a raconté l'histoire que lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis, après avoir quitté la Roumanie, où ils avaient beaucoup souffert, comme c'était un homme habile avec ses mains, intelligent, débrouillard, il a monté son entreprise et en quelques années, son entreprise a prospéré. Et comme son entreprise prospérait, qu'il gagnait beaucoup d'argent, il s'est laissé accaparer par son travail, oubliant même d'aller à l'église. Et il ne voulait même plus entendre parler de Dieu parce que son travail marchait très très bien et qu'il devenait riche et de plus en plus riche. Et sa fille a dit à ce pasteur, « Je voudrais que vous priez pour mon père, pour qu'il revienne à Dieu. » Et voyez-vous, dans cette histoire, il y a une morale très particulière, c'est que ce que la persécution n'avait pas réussi à faire, ce que Satan n'avait pas réussi à faire par la persécution, il avait réussi à le faire en faisant devenir prospère et riche cet homme-là. La persécution fait plus peur que la prospérité. Je n'ai pas encore rencontré, et je ne suis plus tout jeune comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui craignait la prospérité. En général, on en rêve plutôt que de le craindre. Mais j'ai rencontré bien des gens qui avaient peur de la persécution. Et pourtant, ce n'est pas par la persécution que Satan avait réussi à faire tomber cet homme, mais c'est par la séduction des richesses. En fait, et je termine par là, Jésus a mis en garde contre un certain nombre d'éléments qui peuvent nous faire négliger notre salut au point d'éventuellement le perdre. Et parmi ces éléments, il y a les préoccupations, les soucis. Jésus a dit dans la parabole du semeur que les soucis peuvent étouffer la parole que nous avons reçue, la parole de Dieu. Quand nous recevons la parole de Dieu, si nous la recevons dans de bonnes dispositions, elle va porter du fruit. Mais si nous la recevons dans un cœur qui s'inquiète, mais qui ne s'inquiète pas de la parole, qui s'inquiète des choses du monde, qui s'inquiète de l'avenir, qui s'inquiète d'avoir toujours un travail, qui s'inquiète de quoi il va vivre demain, Jésus dit, cette inquiétude peut suffoquer, étouffer la parole et l'empêcher de se développer, et donc de porter du fruit. Alors que Jésus a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins, avec richesse, selon sa gloire. Comme l'histoire de notre ami Roumain l'a montré, la séduction des richesses peut nous faire négliger, maltraiter notre salut et oublier sa valeur extraordinaire, oublier son côté miraculeux, extraordinaire, parce que c'est un grand salut. Il y a aussi les plaisirs du monde, dit Jésus dans sa parabole du semeur, qui peuvent nous faire oublier la grandeur du salut que Jésus nous offre par son sacrifice sur la croix. Dans la première lettre à Timothée, au chapitre 6, verset 10, l'apôtre Paul va même jusqu'à dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est souvent le cas. Dans l'exemple de notre ami Roumain, c'est ce qui s'est passé. L'argent a appelé d'autres argents. Et sans doute qu'avec cet argent, il pouvait commencer à s'acheter des choses dont quand il était en Roumanie, il ne pouvait même pas imaginer qu'il l'aurait un jour. Mais en devenant toujours de plus en plus riche, peut-être qu'il s'était construit une plus grande maison, il avait acheté une plus belle, une plus grosse voiture, plus luxueuse, et puis il avait peut-être investi autrement, et cela a fini par le dévorer. Nous ne savons pas la fin de l'histoire, je ne sais pas si cet homme est revenu à Dieu. Mais le salut que nous avons reçu est un grand salut. Et nous pouvons le négliger, par exemple, en négligeant la lecture de la parole de Dieu. Par exemple, en négligeant d'étudier, de méditer la parole de Dieu. En négligeant ou en cessant de la considérer comme notre boussole, notre direction, notre guide. Le roi David a dit de bien de belles choses sur la Bible. Il a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est comme une lumière sur mon sentier. » Si nous cessons ou si nous négligeons de considérer la parole de Dieu comme cette lumière qui nous dirige par ses enseignements, par tous ses conseils pratiques qu'elle nous donne, nous pouvons en arriver à négliger notre salut. De même, si nous négligeons la prière, si nous négligeons cette conversation quotidienne avec Dieu, si nous négligeons l'Église, bien sûr, vous êtes là cet après-midi, c'est que vous ne négligez pas l'Église, mais cela peut arriver quelquefois. En conclusion, j'aimerais dire ceci. La vie du chrétien est souvent difficile, pas simplement s'il y avait des persécutions à la clé, mais la vie du chrétien est souvent difficile parce que tout ce que le monde offre de particulier ou produit est généralement hostile au fondement de notre foi en Dieu. Mais le salut que Dieu nous offre est un grand salut. Jésus l'a obtenu pour nous en donnant sa vie, en donnant tout ce qu'il avait pour nous. Et la vie abondante, c'est elle qui nous a donné. Alors pourquoi ne pas tenir compte, pour terminer, de ces paroles, toujours de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et ce sera notre conclusion, face aux difficultés de la vie, face aux persécutions, face à tout ce que la vie peut nous valoir de difficultés, l'apôtre qui a écrit la lettre aux Hébreux, écrit au chapitre 12, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire tous ceux qui avant nous ont cru et sont restés fidèles à Dieu, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Que Dieu nous aide et qu'il nous permette de lui rester toujours fidèles quoi qu'il arrive, dans les mauvais moments, dans les temps de difficulté ou de persécution, si cela doit venir, mais aussi dans les temps où tout est calme, parce que c'est peut-être là que nous risquons le plus. Que Dieu soit béni.